Sylvain et Elena qui nous ont préparé un beau morceau de musique. Merci. Mais merci beaucoup, Sylvain et Elena, qui vont aussi nous accompagner pour le temps de louange. Oui, bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à vous tous, ici, présents, ici, dans cette église évangélique de Mérin, et à vous tous qui nous suivez derrière, ou plutôt devant, vos petits écrans. Que la grâce et la paix de Dieu repose sur chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons vivre un culte un peu particulier, car nous avons le plaisir d'accueillir Marc Hoffmann, de l'association Portes Ouvertes, que certains d'entre vous connaissent, une association qui œuvre, encourage, aide nos frères et sœurs qui souffrent, ici ou là, dans le monde, pour leur foi en Jésus. Alors, bienvenue, Marc. C'est dimanche aujourd'hui. Une journée dans la semaine. Mais une journée mise à part pour se rassembler. Et surtout pour adorer ensemble notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Une journée aussi pour se reposer, pour lâcher du lest, abandonner toutes nos activités un peu habituelles, ne plus écouter les nouvelles bonnes et moins bonnes. Il va y en avoir tout à l'heure des nouvelles, après les votations. Tous les faits qui, dans la vie d'aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons, nous troublent, nous stressent, nous envahissent parfois. C'est le culte. Et je vous propose de prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons premièrement t'adorer, te louer, toi, le Seigneur, qui a tout quitté pour venir prendre notre place et qui est devenu, par ta mort, par tes souffrances sur la croix, qui a pris nos fautes, tu es devenu notre Sauveur, celui en qui nous espérons. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous nous réunissons ce matin, que nous nous sommes, pour certains, préparés à t'accueillir. Merci parce que c'est toi qui nous accueilles en premier. Oui, nous remettons ces moments, nous te remettons, Marc, aussi dans ce qui va nous apporter pour cette œuvre de porte ouverte. Nous te remercions parce que tu nous donnes l'occasion de nous ouvrir, d'aller plus loin, de monter une marche, de voir de nouveaux horizons. Nous nous remettons les uns et les autres en toi, Seigneur, pour ce moment. Nous te l'offrons. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Certitude. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Je vous propose de commencer avec ce chant. Nous pouvons le fredonner, plus ou moins fort, dans nos masques. Je vous propose de le faire. Ceux qui désirent se lever peuvent se lever. Et pour chanter ce numéro 241, avec toi, Seigneur, tous ensemble.
De nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons.
Deuxième chant, c'est le roi dans sa splendeur. Le roi vêtu de majesté. Et puis, le cantique dit, la terre se réjouit. La nuit essaye de fuir au son de sa voix. La nuit essaye de fuir. Cette nuit, dans ce monde très obscur, elle est là, elle est présente. Et l'Église, nous les chrétiens, nous sommes appelés au nom du Dieu vivant, d'essayer de faire partir cette nuit. C'est un peu l'œuvre de porte ouverte aussi. Que le Dieu grand, le Dieu puissant, digne de louange, et quand nos cœurs s'écrient « Mon Dieu, ô Dieu, tu es grand », nous essayons, en Jésus-Christ, de faire fuir et que la terre se réjouisse au son de la voix de notre Dieu. Chantons le roi dans sa splendeur. Se réjouit, la terre se réjouit, et paraît déclare la nuit. Thank you. étend ta royauté. Car Christ est roi. Nous le croyons. Même s'il est venu une première fois, comme celui, comme l'agneau souffrant, celui qui vient porter, nous savons qu'il reviendra comme roi et que tout le monde, un jour, l'adorera, le reconnaîtra. Pas vrai ? Seigneur, étends ta royauté, premièrement, au fond de mon cœur. Et je me suis posé la question, est-il vraiment le maître ? Au fond de moi, dans mes pensées, dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans le service. Seigneur, étends ta royauté dans l'Église entière, ici et au loin. Ici, libre, au loin, dans les chaînes. Pas Camérin, mais l'Église avec un grand E, dont nous faisons partie, une Église que Dieu aime. Son épouse, dit-il, qu'il viendra chercher. Ô Dieu, Seigneur, étends ta royauté, dit le chant, sur la terre entière. Sur la terre entière. Oui, nous pouvons demander ce jour. Ô Dieu, reviens, étends ta royauté, en pensant à nos frères et sœurs qui sont persécutés, effectivement. Que la royauté divine s'étende dans notre pays et dans tous ces pays où être chrétien n'est pas facile. Ta souveraineté, ton autorité n'auront pas de fin. Chantons, Seigneur, étends ta royauté, le 490 dans les jambes, j'aime l'Éternel. Le dernier chant, est-ce qu'on peut appeler ça un vieux chant ? Peut-être. On le chantait à la Ligue pour la lecture de la Bible, à Lausanne, à Vennes, je me rappelle. Chrétien, réjouis-toi. Tressaille d'allégresse, dit le chant. Tressaillir d'allégresse, c'est un peu des vieux termes. on dit aujourd'hui, c'est bon, bref. Se réjouir. Toujours. Je peux vous dire que je viens de traverser quelques moments difficiles dans ma relation avec quelqu'un, et c'est pas évident de se réjouir. Pas évident de dire, oh Seigneur, tu es le meilleur. Non. Et pourtant, nous sommes appelés, l'apôtre, Paul le dit, hein, dans la 4-4 de l'Évangile, hein, Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Puis comme si on n'avait pas compris, il dit « Je le répète, réjouissez-vous. » Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas une joie superficielle. Même dans l'adversité, nous pouvons continuer à nous réjouir dans le Seigneur. Et cela n'est possible que par notre disponibilité à l'Esprit-Saint, à sa sagesse, à ce qu'il vienne régner en nous. Chrétien, réjouis-toi. Car ton Sauveur est roi, on vient de le chanter. Regarde à lui sans cesse. En son amour, si on n'est pas dans son amour, futilité, inutilité. Restez dans son amour. Chrétien, réjouis-toi toujours. Le verset 3, c'est un de mes versets préférés de ce chant. Éclate en saint transport, ça aussi c'est une vieille expression. Éclater en saint transport, c'est-à-dire se réjouir, mais énormément. Voici ton Dieu confie, mais qu'est-ce qu'il confie ? Les portes de la mort au prince de la vie. C'est-il pas beau ? Voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie qui a vaincu la mort. Espère, adore, crois. Jésus seul est le maître, au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. Se réjouir dans cette espérance qui se règne dans le ciel au sein de la lumière et son règne éternel bientôt viendra sur terre. Chrétien, réjouis-toi, quelle belle espérance. Lisons, chantons, fredonnons ces paroles en communion avec tous les chrétiens de par notre monde qui se réunissent aujourd'hui. En communion avec eux, chantons ce magnifique chant chrétien. Réjouis-toi. Tous les couplets. Mais ça fait rien. Je vais le relire. Christ règne dans le ciel au sein de la lumière. Et il prie pour nous, il pense à nous. Il prie pour tous les chrétiens, pour toute son église, pour son épouse. Et son règne éternel bientôt viendra sur terre. Je vais maintenant passer la parole à Marc. Mais pas que la parole, je vais passer aussi l'image, le son. Merci à ceux qui s'en occupent, là-bas, un peu derrière. Qui va donc nous présenter l'œuvre de Portes Ouvertes Et ensuite, nous apportera la méditation. Viens, Marc. Tu es ici, frère.
Amen, merci beaucoup.
Comme à la maison, sois libre de nous apporter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous. Merci, bienvenue.
Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Paul Robert, pour ton accueil. Paul Robert m'a accueilli tout à l'heure à 9h30 à l'entrée en me disant « Tu es ici chez toi ». Ça fait du bien de se sentir à la maison quand on arrive dans un lieu inconnu. Quel privilège d'être les uns les autres, frères et sœurs, assemblés, rassemblés en un seul lieu pour un temps, pour écouter la parole de Dieu et pour prendre acte aussi de ce que vivent d'autres chrétiens sur la terre qui se rassemblent parfois dans la confidence, dans la discrétion, ou dans le plus grand secret, pour éviter d'être découvert. Bien sûr que nous avons affaire à quelques restrictions, quelques contraintes, nous aussi, par les temps qui courent. Alors peut-être que ces légères frustrations nous ouvrent le cœur, ou les yeux en tous les cas, sur ce que d'autres vivent sur notre planète, des restrictions beaucoup plus sévères. Parfois, ils se rencontrent au risque de leur propre vie, ou en tout cas au risque de leur propre communauté. Nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Et pour nous, l'affliction est passagère, parce que nous entrons probablement, nous espérons entrer tôt ou tard dans un temps post-Covid, où nous pourrons, je pense, faire tomber les masques et nous serrer dans les bras, retrouver un peu d'affection fraternelle les uns avec les autres. Et nous pouvons nous réjouir. Merci beaucoup pour le Robert, pour les chants choisis. Le dernier cantique est superbe et magnifique. Tressaille d'allégresse. Là aussi, réjouis-toi dans le Seigneur. En effet, Philippiens 4:4. Déjà toute une prédication, déjà tout un encouragement ce matin à nous réjouir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, dans le Seigneur qui est vivant et qui vit en nous par son esprit. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, j'aimerais vous emmener là où portes ouvertes jettent un regard discret mais assuré. En Corée du Nord, là où les chrétiens sont sévèrement persécutés, vous le savez, depuis 20 ans, sauf erreur, la Corée du Nord est au rang numéro 1 de l'index mondial de persécution, qui paraît d'année en année. En fait, depuis la guerre de Corée dans les années 50, les chrétiens dans ce pays sont persécutés à cause de leur foi. La dynastie des Kim, dont le dernier Kim Jong-un est le dictateur actuel de cette nation, toute cette dynastie a persécuté les chrétiens. C'est tout un peuple qui est taraudé par un pouvoir communiste, un pouvoir totalitaire. C'est tout un peuple qui est extrêmement surveillé et qui souffre sous la férule de ces dictateurs. Mais les chrétiens sont parmi les plus grands à souffrir. Ils souffrent le plus grandement à cause de leur foi. Ce sont eux qu'on retrouve dans les camps de travail comme réfugiés, comme prisonniers politiques en plus grand nombre. L'ONU a comptabilisé, si on ose le terme, 200 000 prisonniers politiques en Corée du Nord, portes ouvertes en des nombres entre 50 et 70 000 qui sont chrétiens. Ce sont des prisonniers politiques enfermés à cause de leur foi. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de découvrir un témoignage d'ici quelques minutes par le biais d'une vidéo, un témoignage d'une prisonnière qui s'en est sortie miraculeusement. La Corée du Nord, donc. Vous connaissez l'index mondial de persécution. Il paraît chaque année. J'ai déjà dit une ou deux choses à ce sujet. Vous avez tout à l'heure toute l'attitude de vous saisir d'un magazine pour refaire le tour de la question. Si vous ne le recevez pas gratuitement à la maison, profitez de remplir la petite carte et inscrivez-vous. Ce sont des nouvelles qui vous sont achalandées par la poste gratuitement, mois après mois, pour susciter non pas la curiosité, mais la prière, l'intérêt et la compassion, la prière pour les gens qui souffrent. Quand nous-mêmes, nous passons par des temps adverses ou difficiles, nous apprécions la prière des frères et des sœurs. Que faire sans prière? J'y reviendrai dans ma prédication tout à l'heure. La population de la Corée du Nord, c'est un petit pays qui ressemble à la Suisse, mais qui est beaucoup plus grand quand même en taille et en nombre. Pourtant, c'est un tout petit pays en Asie du Sud-Est. 25 millions d'habitants, 1,5% de chrétiens, 8,5 millions de chrétiens quand même dans ce pays, ce qui est, 400 000 chrétiens en comparaison à la Suisse. J'ai le PowerPoint sous les yeux, mais je confonds les chiffres. Pardonnez-moi, vous les avez à l'écran, et tant mieux, vous pourrez me corriger. 400 000 chrétiens, ça fait 1,5% de la population, c'est quand même un chiffre extraordinaire. Imaginez que l'Église a été persécutée depuis des décennies, on compte encore dans ce pays un grand nombre de chrétiens malgré tout. Ce qui est étonnant, c'est l'œuvre du Christ qui bâtit son Église, malgré tout, dans des pays là où il est improbable de trouver une foi vivante. Dieu la suscite malgré tout. Vous savez que Kim Jong-un a fait ses études à Berne, en Suisse. Le petit-fils du premier dictateur à la sortie de la guerre de Corée. Son père a hérité du mandat aussi, et lui, a, après son père, fait de même. Pourtant, il a été éduqué ici à Berne. Il n'a probablement pas saisi la portée de la démocratie directe. On vote aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'a pas saisi la balle au bon pour réformer son régime. Pourtant, il était dans la capitale de la plus belle des démocraties au monde. Démocratie directe à la Suisse, qui fait bien des envieux sur la terre. C'est le culte de la personnalité qui s'est imposé à lui par héritage et qu'il impose à son peuple encore aujourd'hui. Une véritable religion dans l'État, puisque les chrétiens ne disposent d'aucune marge de liberté. Si vous êtes découvert comme chrétien, vous serez tué sur place ou bien emmené dans un camp de travail. Vous allez subir une longue peine d'emprisonnement et de voilà probablement ne pas en ressortir facilement ou peut-être même en décéder. C'est donc un espace de liberté qui n'existe pas. Ce sont des camps absolument terribles. Vous en aurez un aperçu tout à l'heure dans la vidéo. Au péril de leur vie, donc, des chrétiens se réunissent malgré tout en Corée du Nord. Ils cachent leur Bible, taisent la foi. Ils n'osent même pas la transmettre à leurs propres enfants de peur d'être trahis par leur propre progéniture. On se tait et on prie. On vit sa foi à couvert, tant et tant. Le risque est grand d'être enfermé dans un de ces camps que vous avez à l'écran maintenant. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent là enfermés, 50 à 70 000, je le disais tout à l'heure. Alors, pour vous permettre de découvrir un témoignage issu de l'un de ces camps, je vous propose la vidéo qui suit. Et je reprendrai le flambeau tout à l'heure. C'est une vidéo de 5 minutes. Merci de votre attention.
제일 먼저 그들은 이름을 아사간다. 죄수들은 더 이상 사람이 아니며 번으로서 불린다. 짐승처럼 살고 일하게 된다. 죽을 때까지. 죽은 다음에는 질질 끌려나가 썩혀 내버려 둔다. 그러나 나에게는 여전히 희망이 있다. 중국으로 도망을 가면서 자유를 찾았고 안전가옥에서 그리스도인들이 나를 돌보아 주었으며 그들이 나를 위해 기도해 주었다. 하지만 나는 붙잡히어 북송되었고 감옥에 갇혔다. 그들은 내게 있는 모든 것을 앗아가고 내 몸을 샅샅이 뒤졌다. 검신이 끝났을 때 나는 이전 죄수가 입었던 옷을 입어야 했다. 끈질긴 질문을 받았고 복원과 폭행을 난무했으며 어떤 이유든 갖다 붙였지만 사실 이유는 없었다. 중국에서 그리스도인들이 나를 도와주었다는 것을 인정하는 순간, 내가 예수님을 영접했다고 인정하는 순간, 나는 죽은 목숨과 다름없다. 즉시 돈은 천천히 죽을 것이다. 감방은 낮에는 덥고 밤에는 춥다. 여기서 주는 음식만으로는 연명하기도 어렵지만 그건 나뿐만이 아니다. 이 감옥은 조용할 날이 없다. 언젠가 그들이 내 번호 42번을 불러도 대답이 없을 것이다. 죽은 자는 말이 없으니까 말이다. 나의 옷과 나의 번호는 새로운 죄수 42번에게 넘어갈 것이다. 내가 할 수 있는 것은 마음속으로 기도하는 것뿐이다. 소리 없이 눈물로 이 감옥에서 나의 아버지를 바라옵니다. 아버지, 이 죄 많은 딸을 받아주소서. 주의 산성과 요새로 나를 지키시고 나의 방패가 되소서. 주의 평안의 날개 아래 거하게 하소서.
C'est une vidéo difficile, n'est-ce pas? La persécution à l'extrême, le plus dur à vivre pour la cause de Jésus. Pourtant, le Nouveau Testament est plein de ces récits. C'est vrai? Le deux tiers du Nouveau Testament est écrit à une église ou à des églises qui sont elles aussi victimes d'une forme de persécution, plus ou moins sévère. Et dans la suite des premiers siècles de l'histoire de l'Église, nous savons pertinemment que bien des chrétiens ont subi ce genre de sort-là. Ce sont nos pères dans la foi. Ce sont celles et ceux qui nous ont légué la foi. Comment pouvons-nous soutenir notre foi ou comment pouvons-nous vivre dans l'extrême de la persécution sans défaillir, sans perdre les pédales ou la raison, sans perdre la foi en tous les cas? C'est la question souvent qui me taraude. Comment est-ce que je tiendrai ou comment est-ce que je survivrai à ma foi si j'étais confronté à des situations aussi extrêmes que cela? Alors, Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Mais le petit coup de projecteur sur la Corée du Nord a au moins le mérite de soulever cette question-là. Dans nos facilités, nous perdons la foi. Dans nos facilités, notre confort, notre matérialisme, dans l'accès aux biens et aux richesses qui regorgent dans cette belle Helvétie, nous perdons la foi parce que nous sommes attirés vers une idolâtrie qui ravit le Christ de nos propres yeux. Alors, la persécution n'a pas besoin de frapper, déjà nous perdons la foi. Si nous étions dans les chaînes à cause du Christ, ne serions-nous pas peut-être plus zélés pour le Seigneur? Ne trouverions-nous pas notre joie davantage dans le Christ, notre Rédempteur vivant, qu'aujourd'hui moribond, faute de difficultés peut-être? Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais pour ma propre vie, j'ai remarqué que dans le temps d'épreuve, je grandis davantage. Et je pense que c'est l'adage de bien des chrétiens et de tous, probablement, parce que le Saint-Esprit n'a cure de nos difficultés. Et tôt ou tard, devant le tribunal de Christ, le Père ne nous demandera pas raison de nos difficultés. Pourquoi as-tu souffert sur la terre? Le Christ, Dieu, le Père et le Saint-Esprit qui connaissent pertinemment notre faiblesse humaine et les raisons de nos souffrances, quand bien même nous les ignorons souvent. La question, c'est John Stott, théologien célèbre, qui posait ses paramètres. Il disait, la question que pourrait poser le Père ou le Christ au moment du jugement dernier, lorsque nous paraîtrons devant lui, c'est « As-tu aimé mon Fils ? T'es-tu réjoui en lui ? As-tu trouvé une passion ?» Hein, Paul le répète à sa manière aussi. « N'avez-vous pas trouvé dans le Père de l'amour, dans le Christ, du secours, par l'Esprit, une consolation, une communion entre tous, entre vous ? As-tu aimé mon Fils ? T'es-tu attaché à lui ? Et l'as-tu fait connaître ? L'as-tu fait connaître ? J'y reviendrai dans mon temps de prédication, bien que j'aie déjà l'impression de prêcher un peu. Tant d'affliction, tant de croissance. Tant d'affliction, plus de passion. Trop de facilité, un peu de paresse, trop parfois. Et la foi se tait, la passion s'éteint. L'Esprit cherche à rendre nos cœurs fervents parce que il faut être bouillant pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas ? Ce sont les bouillants qui en hériteront. Vaut mieux ne pas être tiède, en tous les cas. Alors réjouissons-nous, cherchons la passion pour le Christ dans notre vie aujourd'hui, malgré toutes nos facilités. Et dans les petites afflictions qui sont les nôtres, plions le genou et soyons plus persévérants dans la prière. Le PowerPoint va poursuivre sa course. Je ne l'ai pas sous les yeux, hein. J'ai mon écran, j'essaie d'être synchrone. Alors merci à la technique de le faire suivre. Je vais arriver à la prédication, nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais la petite question que nous nous poserons brièvement, c'est que pouvons-nous faire pour ces chrétiens-là ? Eh bien, c'est comme pour nous autres, pour notre Église, pour notre pasteur, pour les anciens, pour ceux qui nous dirigent, pour nos petits groupes de maison, pour l'Église qui se réunit ici dimanche après dimanche. Prions ! Prions les uns pour les autres et prions aussi pour les chrétiens. Au loin, les chrétiens persécutés. La meilleure manière d'alimenter le feu de la prière, c'est de garder un œil sur l'information, pas celle du 1930, mais celle en tout cas de Portes ouvertes. Par ce magazine et le petit bulletin de prière, vous gardez le feu parce qu'il y a des témoignages et des occasions de vous réjouir, mais aussi de pleurer avec celles et ceux qui pleurent. Donc, priez par le biais de ce magazine. Ne prenez pas la peine de sortir vos smartphones, quoique si vous êtes devant l'écran à la maison, faites-le. Ici, saisissez-vous d'un magazine, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas garder le slide longtemps à l'écran pour celles et ceux qui sont chez eux. Vous retrouvez tout ce qu'il faut sur le site si vous avez cœur à vous abonner. Donnez si, bien sûr, le cœur vous le dit, si l'esprit vous invite à participer activement à cette mission. Donnez et devenez actif, voyagez avec nous, c'est toujours possible. Post-Covid, nous espérons beaucoup repartir bientôt. Écrire, bien sûr, sur le site, vous trouvez toutes sortes de moyens pour transmettre un message d'encouragement aux chrétiens persécutés et devenir bénévole, c'est aussi possible. Une antenne, un bénévole, un ambassadeur, dit-on à Portes ouvertes, ici à Mérin, pour la cause des chrétiens persécutés, est bienvenu. Vous êtes bienvenu si vous désirez partager quelques nouvelles, susciter la prière dans un petit groupe ou en église le dimanche matin. J'en arrive à la prédication. C'est la première fois que je joue avec mon écran et avec le PowerPoint en même temps. J'espère que ça défile correctement. Prédication de la parole de Dieu dans un texte du livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 14, versets 21 à 28. J'avais à cœur de vous informer, mais plus que cela, de vous encourager à 5 moyens que Dieu donne à l'Église pour tenir ferme, pour être forte. L'Église, au sens large, nous, vous, ensemble, mais aussi vous personnellement, que convient-il aux chrétiens de faire pour rester dans la foi ferme et vaillant, bouillant, comme je le disais tout à l'heure ? Alors, rien de mieux qu'un petit passage bien dodu, bien concis, intense et dense, presque, pourrait-on dire, un rapport de mission de Paul. Il est ici question, de Luc qui écrit, le héros de la mission pour l'évangéliste Luc, c'est l'apôtre, et il se plaît à dire et à répéter ce que l'apôtre a entrepris. Ici, au verset 21, je lis avec vous, il est question d'avoir annoncé l'évangile à Derbé, voilà, qu'ils font chemin inverse pour encourager les églises. Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient, pardon, à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est encore quelque chose que nous prêchons, que nous enseignons aux nouveaux convertis, aux jeunes chrétiens. On serre un peu les dents, on n'aime pas trop le dire, n'est-ce pas? Mais pour les apôtres, c'est très clair. C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile. Dans chaque église, ils firent élire des responsables. En priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Pergé, oui, de cesse, ils sont apôtres en mission, ils annoncent la parole à profusion. Ils descendirent au port d'Attalie, verset 26. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils exposèrent en particulier comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils demeurèrent là assez longtemps parmi les disciples. Alors, les cinq marques d'une Église forte, quelles sont-elles? La première, connaître. Connaître quoi? Connaître la foi, connaître l'auteur de la foi. Connaître Dieu. Comment connaissons-nous Dieu? Comment sommes-nous venus à la foi? Qui vous a transmis le flambeau? J'aime beaucoup ce flambeau de l'Évangile dont parle Paul dans Philippiens, chapitre 2, parce que je suis moi-même un flambeau. J'ai dans ma région initié un groupe flambeau, un groupe scout, il y a 5 ans. On est 70 aujourd'hui, enfants et jeunes, 20 chefs. On est parti de rien et Dieu a donné naissance à un groupe qui est beau et fort parce que beaucoup ont trouvé la foi par ce biais-là. Étonnant, extraordinaire. Quand on ose le défi de prêcher l'Évangile d'une manière ou d'une autre, moi je crois que Dieu donne sa bénédiction. Il y met sa patte en tout cas. Et connaître Dieu, c'est connaître le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et annoncer le Christ, roi comme nous l'avons chanté, est toujours un privilège. Parfois, nous en avons un peu crainte de le faire, et pourtant, c'est toujours un privilège qui réchauffe la foi aussi. Vous voulez connaître le défi un peu d'une vie chrétienne vibrante, vous voulez devenir des chrétiens un peu plus zélés, un peu plus bouillants, prenez le pari d'être un tout petit peu plus conquérant sur la zone franche de l'Église qui s'appelle l'évangélisation. Parfois, le parent pauvre, la mission locale. Que fais-je aujourd'hui? Que faisons-nous en Église pour annoncer la couleur, pour faire briller le flambeau de l'Évangile à Mérin et dans la région, à Genève ou en France voisine, là où vous êtes? Connaître Dieu, l'appel à le connaître. Le connaître, c'est lire sa parole. Si vous avez reçu le Christ, c'est parce que quelqu'un vous en a parlé, c'est parce que quelqu'un vous a appelé à lire l'Écriture, c'est parce qu'on vous l'a enseigné. C'est l'impératif catéchétique. Il nous faut connaître le texte, il nous faut le lire. Lisez-le à grands traits. Parfois, on ne se contente que de petits morceaux. Le danger, c'est la suffisance. C'est se contenter. Dire, oh, pour aujourd'hui, ça suffira. Mais ouvrez-le et mangez à satiété. Lisez une lettre de Paul sans vous arrêter. Vous y trouverez une grande joie. Et ça va épaissir votre foi. Sinon, on est oublié. Je dis souvent à mon aîné qui est au gymnase, je ne sais pas comment vous appelez le gymnase ici, enfin, les quelques années qui nous séparent de l'école obligatoire à l'université. Et je lui dis, moi aussi j'ai passé par là, mais je serais incapable de refaire ces exercices de maths, d'algèbre et autres. J'ai oublié. Moi je crois que l'écriture, on peut aussi l'oublier. Voilà pourquoi il est bon d'y plonger les regards et de connaître celui qui a suscité notre foi et qui l'a fait vivre. Vivre, c'est la deuxième caractéristique d'une église forte ou d'un chrétien vivant précisément, c'est qu'il vit quelque chose de personnel et d'authentique avec Jésus jour après jour. Peut-être qu'il y a des jours qui passent trop vite et puis qu'il nous manque du temps, mais 5 minutes, 10 ou allez, 15 pour se laisser émerveiller de Jésus. Prier, les apôtres priaient. Non seulement ont-ils annoncé un message difficile, c'est-à-dire ils prêchaient toute l'Écriture et surtout les souffrances du Christ, sa passion, sa mort, sa résurrection, mais dans chaque église, ils faisaient élire des responsables pour être à leur succession et ils priaient, ils jeûnaient même, ils montraient ici une pédagogie spirituelle, c'est une véritable formation par l'exemple, prier, jeûner, pour confier au Seigneur celles et ceux qui avaient été gagnés au Christ. Où est notre vie de prière? J'entendais tout à l'heure Philippe, votre pasteur, que j'affectionne beaucoup parce que j'ai lu des choses extraordinaires. C'est un poète, votre pasteur. Il écrit dans le journal de La Frée et j'ai trouvé beaucoup d'authenticité et d'humilité dans ces quelques lignes. J'apprécie beaucoup. Et puis les seuls contacts qu'on a eus ont été très chaleureux et cordiaux. Et il disait, c'est pas pour mettre un homme sur le piédestal, mais enfin il disait, je suis du matin, je me suis levé à 6h, j'étais debout, 6h moins 20 même, et j'ai déjà prié. Alors il n'a pas pris la peine de venir prier en bas parce qu'il voulait accueillir les gens. Il était déjà rempli du Saint-Esprit, prêt à accueillir son Église, l'Église que Dieu lui a confiée. Vivre, c'est prier. Tu veux trouver la vie parce que tu te fatigues, parce que les journées sont trop longues pour toi, tu arrives à 20h, tu es exhausted, comme on dit en anglais, il y a plus d'énergie, prie, et prie dès l'aurore, dès les premières minutes de ta journée, et émerveille-toi de ton Créateur, émerveille-toi de ton Seigneur, tu y trouveras la joie et tu seras heureux. Partagez la bonne nouvelle. Alors, je le disais, les apôtres le font à profusion, ils le font peut-être excessivement même, c'est extraordinaire. Partout où ils passent, ils dérangent parce qu'ils confrontent leur auditoire à un message parfois difficile à entendre. Merci. Je fais avancer le PowerPoint sur mon écran et j'oublie le vôtre. Partagez l'Évangile. Verset 21, il est question d'avoir fait de nombreux disciples. Ils en gagnent de nombreux. Et toi et nous, et l'Église, ici, en Suisse romande. Question, interrogation. Montrer la foi. Alors la montrer. Après l'avoir vécu, si on a un témoignage personnel qui ne date pas d'il y a 20 ans, mais qui date de la semaine dernière, si nous vivons avec Jésus quelque chose de quotidien qui nous réchauffe le cœur, qui nous réjouit, ce n'est pas difficile d'ouvrir la bouche. Moi, je crois que le Saint-Esprit cherche à nous ouvrir, en tout cas les voies, les portes, nous donner l'occasion d'ouvrir notre bouche pour dire notre amour. Montrer Dieu, le faire connaître, c'est montrer son amour. Et on le montre cela seul, dans des relations individuelles, on le montre aussi ensemble, collectivement, en tant qu'Église, dans des petits groupes et en communauté, surtout à l'occasion des repas. Si vous voulez faire du bien à un ami, un voisin, un proche, un membre de la parenté éloignée ou proche, peu importe, accueillez-le à la maison et faites comme Paul Robert, bienvenue chez toi. C'est magnifique ça. Et vous avez une belle table, vous ouvrez une bonne bouteille et vous vous faites un ami pour le royaume de Dieu. Oh, ça, c'est extraordinaire. Montrer l'amour, peut-être même avant de le dire, le montrer, ça réchauffe le cœur. Et finalement, le transmettre, parce que c'était là l'œuvre apostolique de Paul, entre autres, trouver succession, confier au Seigneur des responsables qui avaient cru, des jeunes disciples mais qui étaient déjà en âge et qui avaient la maturité probablement pour exercer des fonctions diaconales ou de leadership, comme on dit aujourd'hui dans la première Église. Mais accomplir le ministère, c'est transmettre le flambeau. Et c'est surtout le transmettre à celles et ceux qui l'ignorent, bien sûr, d'âge adulte. C'est toujours une belle chose de voir des adultes se donner à Christ. Mais c'est tellement plus compliqué que de voir des jeunes et des enfants se tourner vers le Seigneur. 80% d'entre nous ont goûté à la foi jeune, n'est-ce pas, enfant ou jeune. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que tôt dans votre parcours de vie, vous avez rencontré Jésus, n'est-ce pas? Alors, je pense que l'Église de Jésus, ici en Suisse-Romande, doit mettre le paquet pour la jeunesse. Vous voulez des successeurs, ici à Meyrin, dans 10, 15, 20 ou 50 ans, mettez le paquet pour les enfants et les jeunes. Mettez-y le paquet. Alors, j'étais au groupe de jeunes à Meyrin, ici, il y a une année et demie, je crois, et j'ai vu un grand groupe de jeunes, motivés, des beaux instruments, c'était l'orchestre en bas, c'était incroyable. Mais il y a des enfants aussi, ils sont ici ce matin, les familles reviendront si on met le paquet et qu'on axe aussi une priorité dans la vision de l'Église à enseigner les enfants, à animer des quartiers libres ou que sais-je, pour répandre l'Évangile parmi la jeunesse ici à Meyrin. C'est l'avenir de l'Église, ce n'est pas les quelques individus qui tournent autour, qui cherchent peut-être, qui sont des chercheurs de Dieu, qu'il faut avoir aussi en vue, avoir de la compassion et de l'amour pour ces gens, mais ce sont les enfants qui ont le cœur tout prêt à recevoir si on leur transmet avec amour notre passion pour le maître. Voilà pour la prédication. J'aimerais terminer en priant. Je sais que Paul Robert va susciter aussi un petit moment de prière, mais j'aime moi-même prier pour vous et je reviendrai tout à l'heure pour la bénédiction, sauf erreur. Seigneur notre Dieu, tu es grand et glorieux. Tu es bon, tu n'es pas aveugle et sourd. Tu entends le cri, les gémissements, les plaintes de nos frères, de nos sœurs sur la terre. Nous avons montré en image, nous avons vu et entendu de nos propres yeux un témoignage parmi d'autres de la rudesse, de la dureté, de l'épreuve dans un pays tel que la Corée du Nord. Et pourtant, il y a encore 400 000 détiens dans ce pays, nos frères, nos sœurs. Fortifie-les aujourd'hui, Seigneur, qu'ils trouvent leur joie, leur paix en toi, leur consolation. Montre-toi tendre et bon, charitable avec eux. Soutiens leur foi, Seigneur. Donne-leur la faveur de leur geôlier. Fais tomber les chaînes, rends-les libres. Ou alors cache-les, garde-les à secret. Protège tes enfants dans cette nation. Et pour nous-mêmes qui sommes parfois attiédis à cause de nos facilités, nous t'en prions, Seigneur. De même, nous crions à toi pour notre foi. Vivifie-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Donne-nous des temps de communion avec toi, seul dans notre chambre. Donne-nous soif de lire ta parole, de nous laisser émerveiller de toi, d'apporter nos louanges et notre adoration, seul, en famille, en couple et en communauté. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être plus zélés pour l'Évangile. Donne-nous, Seigneur, d'être des porteurs de flambeaux dans cette nation. Donne-nous, Seigneur, la joie et l'allégresse de discuter, dialoguer, amener à la conversation ce qui réjouit nos cœurs, le Christ, le Seigneur, et que beaucoup découvrent, parmi les enfants et les jeunes, la beauté de la foi, la beauté de croire en toi, parce que tu es merveilleux. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.
Merci à Marc pour son message, pour ses propos, pour ses encouragements. On a besoin d'encouragement. Et c'est vrai, je vous propose maintenant un temps où nous pouvons les uns les autres, dans nos cœurs ou à vive voix ou haute voix, prier. On peut prier effectivement pour les frères et sœurs qui sont persécutés dans ce monde. C'est l'occasion aujourd'hui peut-être de le faire particulièrement. Prier aussi pour nous, pour notre Église, afin qu'elle soit renouvelée dans cette dimension d'accueil et d'apporter cette bonne nouvelle. Voilà, je vous propose de le faire et nous terminerons avec un chant Notre Père qui est aux cieux tout à l'heure. Que chacun donc se sente libre de prier ou de s'exprimer. Merci Seigneur parce que tu t'es premièrement fait connaître à nous. Et nous apprenons à te connaître afin de transmettre, d'apporter, montrer cette bonne nouvelle. Tu veux nous y aider, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs qui souffrent, notamment à Corée, on l'a vu, mais beaucoup d'autres endroits. Nous prions vraiment pour eux. C'est vrai qu'ils sont bridés souvent, ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Mais malgré tout, dans ce qu'ils font et ce qu'ils vivent, cette Église tient le coup. Nous les bénissons, Seigneur. Garde-les. Mets ta main sur eux. Protège-les. Amen.
Tous les frères, tous le paquet pour les jeunes, les ados, qui mettent le paquet pour la garderie. Tous ceux qui s'occupent des enfants, Seigneur, nous te les remettons dans tes mains pour qu'ils puissent apporter de ta part ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons travailler pour nos enfants, pour les petits, pour les ados, et nous te les remettons dans tes mains d'amour. Amen.
Amen.
Persévérant et inventif dans les temps délicats que nous vivons, avec des limitations bien réelles, mais qui ne t'empêchent pas, toi, de rester un Dieu d'amour qui cherche à sauver. Aide-nous à intégrer, relayer, partager amplement ce message.
Amen. Je vous propose de terminer ce temps de prière avec cette magnifique prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père, en le chantant, et merci à l'équipe de passer et de ensemble fredonner ce chant.
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Bonjour à chacun. Alors, pour les annonces, jeudi qui vient, nous avons le conseil et nous allons nous réunir en visioconférence. Ensuite, le 26 mars, vendredi 26 mars, nous avons prévu notre colloque de printemps. Alors, vous allez recevoir des documents prochainement pour une convocation. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore sous quelle forme on va le faire. Est-ce que ça sera en visioconférence, est-ce que ça sera moitié-moitié? On verra un petit peu selon ce qu'on peut faire comme disposition dans la salle et le nombre de personnes qu'on aura le droit d'avoir ici. On verra encore comment toutes les modalités, mais retenez la date du 26 mars, ce qui permettra aussi de valider les comptes, de valider le budget et d'avoir toutes sortes d'informations pour l'année en cours. Ensuite, vous avez peut-être vu passer le message comme quoi la garderie est de nouveau en fonction, en tout cas pour les quatre prochains dimanches, c'est assuré. On remercie aux personnes qui se sont portées volontaires pour assurer cette garderie, ce qui permet aux familles de pouvoir venir. Et ça, on est très content de pouvoir accueillir aussi les familles, notamment avec cette garderie qui se trouve dans la salle, alors plus dans la salle de la garderie de la Framboise, pour des raisons sanitaires, mais dans la salle d'à côté, qui est la salle des Lucioles, qui est suffisamment grande pour accueillir des enfants. Et bien sûr, toute personne volontaire pour les dimanches qui suivent, pour maintenir cette garderie, nous vous encourageons à vous annoncer. Vous pouvez vous annoncer auprès de nos pasteurs pour le bien de notre communauté. plus proche de nous ce samedi 13 mars. Ça concerne principalement et uniquement les femmes. C'est Ladies First. Donc samedi 13 mars, entre 10h et 11h15, et c'est sur inscription, c'est sur le thème du pardon. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à Zena qui est présente ce matin. Et pour ceux qui sont en ligne, un petit mail, soit Zena si vous avez son adresse, soit via le conseil ou les pasteurs. Voilà pour les annonces. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Pour les hommes. On a plus de temps d'offrande. Vous savez comment on faisait d'habitude.
Alors, oui, je voulais vous laisser un petit moment de répit parce que on le répète chaque dimanche et on le voit en fait dans les bilans mensuels de votre générosité. Je ne voulais pas insister encore aujourd'hui, mais effectivement, il y a plusieurs moyens de paiement. Si vous voulez faire un don, une offrande, soit en présentiel avec la corbeille à la fin, avec Twint, ou en ligne avec, sur le compte de chèque postal. On vous remercie en tout cas pour votre générosité. Les finances sont saines et c'est grâce à vous. Et l'Église fonctionne grâce à ses dons. C'est une grâce de la part du Seigneur de pouvoir... avoir des finances saines, et on vous remercie.
Voilà, on m'a demandé de prier avec vous, de vous accorder la bénédiction. Est-ce que vous vous levez ? C'est comme ça qu'on fait, c'est très bien. Que l'amour du Père, bienveillant et tout-puissant, la grâce du Christ, compatissant, miséricordieux et juste, le relais, le secours du Saint-Esprit, son assistance et sa joie vous soient communiqués abondamment aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour sa gloire et pour le témoignage de l'Évangile, son Église, ici sur la terre. Allez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.